d'actu en direct depuis la 77e édition du Festival de Cannes, une émission présentée par Robin Hulin.
Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes de retour à l'antenne pour ce nouveau numéro de C'est d'actu après quelques jours d'absence et nous sommes partis du Mans et de la Sarthe pour nous envoler vers le sud, le soleil et le Festival de Cannes. Cette année, pour la première fois depuis 40 ans, Radio Alpa a la chance de couvrir le Festival de Cannes et sa 77e édition, l'un des plus grands rendez-vous du cinéma au monde. Alors tous les jours jusqu'au lundi 20 mai, nous serons présents sur place pour vous faire découvrir les coulisses de cet événement. Évidemment, si nous sommes à Cannes, nous parlerons de cinéma, rien que de cinéma, avec plusieurs films sur la quinzaine des cinéastes notamment. On reviendra en début d'émission sur cette sélection parallèle au festival, à l'histoire très particulière et militante il y a un demi-siècle en plein cœur de mai 68. Et enfin, que serait le Festival de Cannes sans son marché du film? Dans le sous-sol du palais se cache ce trésor, aux centaines de stands et intervenants venus des quatre coins de la planète pour présenter leurs studios, leurs productions, mais pas seulement. À cette occasion, nous parlerons d'Europe et de l'Observatoire européen de l'audiovisuel. Alors que fait-il? Il a un rôle central pour le cinéma européen, vous verrez. Vous l'avez compris, l'objectif de cette semaine, vous faire vivre le cinéma à travers l'oreille et la radio. La croisette, le tapis rouge, les paillettes, les dress codes et le soleil. Surtout, suivez-moi, on est parti pour 5 jours à Cannes. Dressons un peu le portrait de cette nouvelle édition. Le Festival de Cannes célèbre sa 77e édition, présidée cette année par l'américaine Greta Gerwig, notamment réalisatrice du film Barbie l'année dernière. Dans le jury, on compte également la scénariste Ebru Ceylan, les actrices Lily Gladstone et Eva Green, le réalisateur Antonio Bayona et Kore-eda Hirokazu, ainsi que l'acteur Pierre-Francesco Favino, star du cinéma italien, et enfin pour la France, notre cher Omar Sy. Au total, 22 films sont en compétition pour la sélection officielle et la Palme d'Or. Une édition marquée par le retour d'un des rois du cinéma, de la science-fiction et de la méga-production, Francis Ford Coppola, qui présente Mégalopolis, également en compétition officielle. A noter également la présence de certains Français, Jacques Audiard qui présente Emilia Pérez, ou encore David Cronenberg avec Les Linceuls. Et entre autres, Michel Hazavanicius est de retour au cinéma avec La plus précieuse des marchandises. Et enfin, Gilles Lelouch présente L'amour ouf avec Adèle Exarchopoulos et François Civil en tandem. Alors on parlera au fur et à mesure de la semaine des différentes sélections et catégories qui composent le Festival de Cannes. Dans cette même émission, ce jeudi justement, on parlera de la semaine de la critique et de son histoire, avec en prime un retour sur la projection du film Simone de la Montagna de Federico Luis. Avant ça, nous allons nous pencher sur le premier sujet du jour. Comme je le disais en introduction, on va parler de la quinzaine des cinéastes. Une des plus célèbres sélections de la quinzaine, parallèle au festival officiel, qui a une histoire bien à elle, bercée de militantisme et de révolte à la sauce mai 68. Avant ça, une pause musicale. On écoute Long Train Running des Doobies Brothers. A tout de suite.
I'm
Vous êtes toujours sur notre antenne pour la suite de notre semaine spéciale depuis la 77e édition du Festival de Cannes. Dans cette nouvelle partie d'émission, nous allons vous parler de la quinzaine des cinéastes. Tous cinéphiles que vous êtes, vous avez tous entendu parler de cette sélection assez identifiée du public qui s'appelait avant la quinzaine des réalisateurs. Alors comme nous allons couvrir plusieurs de ces films cette semaine, nous avons retracé l'origine de cette sélection à Cannes, avec en toile de fond un militantisme affirmé dans le cœur de mai 68. C'est une chronique réalisée ce mercredi sur l'antenne d'Agora FM depuis Cannes.
La passion du 7e art, toujours en direct du Festival de Cannes, avec un nouvel invité, il s'appelle Robin. Bonjour Robin.
Bonjour.
Aujourd'hui, pour cette première chronique sur notre antenne, vous allez nous parler de la quinzaine des cinéastes. Vous allez donc présenter les différents films présentés cette semaine. Mais avant ça, pour commencer, faisons un focus sur la quinzaine des cinéastes et sur son histoire, parce qu'elle est née dans un contexte assez particulier et militant finalement.
Effectivement, nous sommes en mai 68, cette année-là, les étudiants sonnent la révolte à Paris, et pendant ce temps-là, le Festival de Cannes s'ouvre donc dans un contexte assez particulier. Les jeunes ont des revendications, mais le festival semble démarrer sans se soucier réellement de ce contexte tendu, et ce sont plusieurs cinéastes comme Truffaut, Godard ou Lelouch qui vont commencer à contester et réclamer certaines revendications, et ils créent donc cette fameuse société des réalisateurs et réalisatrices. Mais la direction du festival est plutôt encline à négocier et ne pas accepter toutes les revendications, comme celle de ne plus imposer un dress code pour les projections du soir, par exemple. Ça ne convient pas à la SRF, elle crée donc, dès l'année suivante, un contre-festival, cette quinzaine des réalisateurs. Et ce sont désormais les membres de cette quinzaine qui choisissent eux-mêmes les films sélectionnés. La direction du festival laisse finalement carte blanche à ces nombreux artistes pour créer cette nouvelle sélection, parce qu'elle a aussi des choses à y gagner, finalement, pour montrer une image plus moderne, plus ouverte sur le monde. Alors que propose la quinzaine des cinéastes pendant ces deux semaines à Cannes? Cette sélection, elle est non compétitive, elle est en parallèle du Festival de Cannes. On peut dire que c'est un peu le programme off, comme on le dit un peu dans certains événements. Et donc ce qu'on peut découvrir sur son site, elle l'explique, valoriser la liberté de penser et les inventions de nouvelles formes d'énonciation, de narration, de représentation et de montage. Plus simplement, la quinzaine met en avant des films d'horizons variés avec des réalisateurs peu connus du public. Cette année, 22 films sont présentés. Une des principales caractéristiques de cette sélection, c'est aussi qu'elle s'ouvre à un public non professionnel. Il y a beaucoup d'échanges et de débats avec les cinéastes et le public après les projections. Depuis 20 ans, la quinzaine accueille également la cérémonie du Carrosse d'Or. C'est un prix qui rend hommage à un réalisateur qui a marqué l'histoire du cinéma. Au palmarès, on peut citer Agnès Varda, Martin Scorsese ou encore David Cronenberg. Cette quinzaine, elle a toujours été assez précurseuse sur les questions de lutte contre les discriminations, de combat en faveur de l'égalité, puisque par exemple en 2018, avec la Semaine de la Critique et le Festival de Cannes, elle signe la charte pour la parité et la diversité dans les festivals de cinéma portés par le collectif 50-50. Elle s'engage aussi à fournir des statistiques genrées, notamment par rapport aux films présentés, ou encore de publier la liste des membres des comités et de sélection. Et puis comme vous le savez, depuis 2022, elle a changé de nom. La quinzaine des réalisateurs est devenue la quinzaine des cinéastes pour être plus inclusive. C'est ce que souhaitait son nouveau délégué général, Julien Règle. Voilà, donc cette semaine, on parlera de plusieurs films présentés dans cette édition 2024. On commencera ce vendredi avec Desert of Namibia de Yoko Namanaka, une jeune réalisatrice japonaise. Un film qui suit le parcours d'une jeune femme à l'humeur indécise et imprévisible. En toile de fond, c'est un portrait d'une société encore très patriarcale et toujours assez rigide sur certains aspects.
Alors j'ajouterai une chose, il y a une nouveauté cette année à la quinzaine des cinéastes, c'est le prix du public.
Oui,
qui a été
absolument
créé. Voilà, on en reparlera bien sûr. Merci Robin et rendez-vous à demain.
Merci.
Voilà, on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre émission, puisqu'on sera notamment avec Pascal Guémard, journaliste pour Agora FM. Depuis 35 ans, il couvre le Festival de Cannes et sera notre invité pour en parler dans quelques instants. Avant ça, on écoute Porcelaine de Moby. De retour dans cette nouvelle partie d'émission consacrée à la 77e édition du Festival de Cannes. Et il est l'heure d'accueillir un nouvel invité. Bonjour Pascal Guémard.
Bonjour Robin.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et directeur du groupe Le Petit Niçois, vous êtes chroniqueur pour Agora FM et vous couvrez notamment le Festival de Cannes depuis 35 ans maintenant. Alors on va évoquer un petit peu comment une radio locale se positionne et couvre un événement de cette ampleur. Déjà, est-ce qu'on peut, pour expliquer un petit peu aux gens qui nous écoutent, comment est-ce qu'Agora FM couvre le Festival de Cannes pendant cette quinzaine ?
Mais écoutez, on a une émission, avant nous avions une émission d'une heure, hein, qui était bloquée de 13h à 14h, où il y avait des invités, où il y avait des scolaires, où je m'occupais déjà de la compétition officielle et d'un certain regard. Et après, le Covid, le départ aussi de la rédactrice en chef, à la retraite, on a changé un petit peu, c'est des modules maintenant, et c'est comme ça qu'on couvre toutes les sélections, également des billets d'humeur, également des interviews de réalisateurs ou d'invités que des différentes sélections que l'on peut avoir.
C'est une manière de couvrir ce festival sous différents aspects, avec de la proximité, des chroniques, des projections, des rencontres, des interviews.
Oui, et puis aussi un petit aspect people ou ce qui se passe derrière ou le non-dit du festival, c'est ça qui nous intéresse aussi. Parce que bon, par exemple, c'est vrai qu'actuellement, il y a un gros sentiment de grogne par rapport aux billets qui sont de plus en plus limités et que cette nouvelle billetterie qu'on nous a imposée à partir du Covid bug souvent et crée beaucoup, beaucoup de frustration chez les festivaliers, y compris chez les journalistes.
Est-ce que cette couverture médiatique, elle a évolué depuis 30 ans, selon vous, pour ce Festival de Cannes ?
On peut dire que c'est différent là, l'émission que l'on fait maintenant, puisque c'est des modules. Avant, c'était une émission complète, donc avec qui était vraiment codifiée. Aujourd'hui, oui, elle a forcément évolué, mais Cannes aussi a évolué. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de films qu'avant. Cannes Première n'existait pas. C'est une nouvelle sélection qu'a mis en place Thierry Frémaux pour faire des avant-premières à Cannes. Alors, je sais qu'il la défend bec et ongle, mais nous, on n'en voit pas trop l'utilité. Mais en multipliant les séances, il faut savoir que presque en sélection officielle, on est passé d'une 80 séances à plus de 120 aujourd'hui. Donc sur une dizaine de jours, moi j'essaie de voir une soixantaine de films et j'en vois que la moitié encore. Quand je peux, bien sûr, aller accéder au fameux QR code, le Sésame ici, quoi.
Justement, comment expliquer cette évolution du Festival de Cannes ? Est-ce que c'est parce qu'elle s'intéresse à différentes thématiques qu'elle abordait peut-être moins avant ? Ou il y a d'autres aspects pour expliquer cette surmédiatisation et cet événement qui a pris de l'ampleur ?
Gilles Jacob était quelqu'un de très traditionnel. Le cinéma devait être lent, beau. Le cinéma de la comédie, le cinéma d'horreur n'avait pas sa place. Quand le délégué général Thierry Frémaux est arrivé, nous on l'a salué. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, ce type de film, horreur, animation et autres, est arrivé en compétition officielle. Et ça, c'était nouveau pour nous. Et Thierry n'a jamais eu le moindre réticence à montrer, par exemple, Love, qui était un film ouvertement quasiment pornographique de notre ami Gaspard Noé.
Qui avait fait beaucoup parler, ouais, il y a 7-8 ans. Ouais.
Et qui l'a montré en compétition officielle avec une montée des marches. Donc voilà, c'est cette audace que nous, on a aimé. Maintenant, bien sûr, quand vous voyez 2000 films chaque année, eh bien, vous avez envie forcément de faire plaisir un peu à tout le monde, d'où la multiplication des séances hors compétition, des séances spéciales et maintenant de Cannes Première. Et puis aussi, quand il y a eu Fahrenheit 9/11 qui a eu la Palme d'Or, le film de Michael Moore, eh bien, la volonté, parce que c'était Quentin Tarantino qui est monté au créneau parce qu'il l'était pour The Old Boy, de sortir les documentaires de la compétition officielle et de créer une autre compétition qui s'appelle L'Œil d'Or, qui récompense le meilleur documentaire. Et à ce moment-là, encore, ça a été une sélection de plus. Vous voyez, donc aujourd'hui, c'est vrai que presque le palais est trop petit. Il faudrait d'autres salles. Et c'est ce que réclame le Festival de Cannes à corps et à cri, bien sûr, à la mairie, au maire de Cannes qu'on salue, David Lisnard. Mais le lieu est ainsi fait que la salle de Agnès Varda, qui était l'ancienne salle du 50e, puisqu'elle était créée lors du 50e, eh bien, elle a 460 places ou 480 de mémoire. Mais elle est trop exiguë pour accueillir notamment les séances du lendemain des différentes compétitions.
Pour revenir sur ce que vous disiez sur le film Love, est-ce qu'il y a un manque d'audace aujourd'hui ou le festival est plus sensible à certains sujets qu'avant ?
Ah ben avec MeToo, ça complètement bousculé les codes. Et aujourd'hui, il y a quand même une très forte chape de politiquement correct qui est là. Je veux dire, le moindre acte d'un cinéaste, d'un comédien qui pourrait donner suite à un procès, ce comédien, je pense immédiatement, ou ce réalisateur serait exclu du festival. Alors, j'en ai parlé dans la chronique que effectivement il y a cette rumeur, mais moi je dis que les rumeurs doivent rester des rumeurs, et tant qu'il n'y a pas condamnation, ben on a une présomption quand même d'innocence dans ce pays. Maintenant, c'est vrai que le court-métrage de Judith Godrèche que j'ai soutenu dans sa démarche sera très attendu au cinéma de la plage. C'est arrivé à elle aussi. On l'a vu aussi son intervention lors des Césars, où elle était très émouvante. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, toute une frange de cinéastes qui n'avaient jamais fait de grands films, mais qui étaient très très admirés de la critique et du microcosme parisien, comme Benoît Jacquot ou Jacques Doillon ou Lioré, et puis en filigrane bien sûr le violeur sous hypnose, c'est-à-dire Gérard Miller, qui était leur ami, ça fait beaucoup. Voilà. Actuellement, je me mets à la place de nos auditeurs. Je me dis, c'est quoi ce milieu, ils peuvent se
dire.
Donc,
cette libération de la parole fait avancer aussi le cinéma dans le bon sens sur certains aspects?
Je sais pas si c'est le bon sens. Est-ce que Barbie a vraiment fait avancer le cinéma? Je pense qu'Oppenheimer était un très grand film qui a eu d'ailleurs tous les Oscars. Après cette changement de, c'est salutaire, hein, que les femmes aient pris la parole, etc. Mais est-ce que ça va pas enfermer le cinéma dans un espèce de carcan de politiquement correct qui va nous empêcher, par exemple, de refaire Love, où aujourd'hui ce serait inouï de faire ça, ou 99 ans dans notre ami Yann Kounen, qui est souvent passé à cette antenne et qui est de grâce, et qui commence 99 ans avec cette scène de vomi de Jean Dujardin. Donc je pense qu'effectivement ça pourrait plus passer, et c'est quand même dommage, parce que le cinéma doit rester un espace de liberté où on peut tout se dire.
Alors, en début d'entretien, on parlait des différentes productions que vous proposez pendant cette quinzaine. Pascal Guémard, comment est-ce qu'on prépare un entretien avec un cinéaste en particulier lorsqu'on a vu sa création et qu'on a un entretien à faire?
Moi, maintenant, je suis un dinosaure, donc. Mais au tout début, c'est vrai que j'écrivais beaucoup, je renseignais beaucoup. Maintenant, je pense que le véritable bonne interview, c'est quand on est dans l'attention de l'autre. Nous, on n'est pas des stars. Même si certains ici, des journalistes, se prennent pour des stars, on n'est pas des stars. Nous, on est au service d'un sujet, et on doit être au service de notre invité. C'est lui qu'on doit mettre en exergue, c'est lui qu'on doit mettre sur un piédestal. Et après, eh bien, comment on le prépare? En l'écoutant aussi, parce que vous pouvez mettre toutes les questions que vous voulez. Si à un moment donné, votre invité vous donne quelque chose qu'il ne va pas donner à un autre, il faut bondir dessus. Et là, il faut creuser. Et c'est là que vous avez quelque chose d'original.
C'est un exercice différent que quand on fait un billet d'humeur ou une chronique. On est un peu seul face à l'auditeur et on n'a pas l'intervenant en face. Il y a d'autres éléments à prendre en avant?
Oui, il y a la communication verbale, non-verbale. Se renseigner aussi comment il est arrivé, s'il est de mauvais poil ou pas. Juste avant de passer à l'antenne, on peut le comprendre. Et puis après, il faut s'adapter, comme je vous l'ai dit, et la plupart du temps sont bienveillants, parce que bon, même si ce milieu peut sembler un petit peu crispé en ce moment, nous, en tout cas, les journalistes, quand on fait ce type de démarche, de faire une interview, il faut être dans la bienveillance.
Justement, quel doit être le rôle d'un média de proximité, d'une radio locale, lorsqu'on reçoit à Cannes un événement mondial comme le Festival de Cannes, et qu'on a un rôle de proximité pour les auditeurs?
Nous, on est proximité, mais en même temps national, puisqu'il y a plusieurs dizaines de radios libres qui nous reprennent. Nous, ce que l'on peut apporter, c'est que toute l'année, d'abord, on fait des interviews. Il y a beaucoup d'invités qui viennent, qui passent par la Côte d'Azur, parce que c'est quand même une terre de cinéma. Il y a des studios, il y a les studios à Cannes, les studios à Nice, la Victorine, les studios à Cannes avec la Bastide Rouge. Il y a beaucoup, beaucoup de films qui se font là. Il y a un fonds de soutien d'aide aux productions départementales, et puis également régionales. Donc, nous, ce que l'on peut amener de plus, c'est qu'on connaît très bien les arcanes du festival et comment ça se passe. Voilà. Donc, à ce moment-là, on peut donner un petit clin d'œil qui est un petit peu autre que celui d'une radio nationale qui ne connaîtrait pas ça.
Alors pour finir, ce festival démarre. Est-ce qu'il y a des coups de cœur que vous avez déjà ou des films qui vous intéressent? Alors,
coup de cœur en fanfare, ça a été Séance AFKI, ça a été un très très gros coup de cœur. À Belgans, bien sûr, parce que c'est un chef-d'œuvre absolu. Après Le Royaume également, qui passe à un certain regard. Et puis on attend Mégalopolis de Francis Ford Coppola, qui pour nous est la Palme d'Or.
Merci Pascal Guémard.
Merci Robin.
On va se retrouver dans quelques instants pour la dernière partie de ce numéro spécial. On restera dans le cœur du palais du festival, mais pour découvrir d'autres métiers qui mettent en lumière le grand écran. Avant ça, c'est Splendido Splendente de Donatella Rettore. A tout de suite.
Splendido Splendente, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente. Estetico d'affetto, io avrò una faccia nuova grazie a un bisturi perfetto. Invitante, tagliente, splendido, splendente.
Vous êtes toujours sur notre antenne et je vous accompagne toujours pour une édition spéciale depuis le Festival de Cannes. Pour ce premier numéro, nous avons parlé de la quinzaine des cinéastes, de son histoire. On a aussi dressé les contours de cette 77e édition, tout en parlant du rôle et de l'expérience d'un journaliste local comme Pascal Guémard. Mais nous allons terminer cette émission en partant pour le marché du film. Nous en parlerons plusieurs fois cette semaine, vous verrez. Créé en 1959, c'est le plus grand marché du film et de la plateforme au monde. Au total, ce sont des centaines de stands avec des producteurs, acheteurs et autres professionnels de l'industrie du film qui viennent présenter leurs missions et leurs actions. À cette occasion, connaissez-vous l'Observatoire européen de l'audiovisuel ? Pendant 10 jours, vous pouvez trouver de ses représentants dans les allées du marché du film. Son rôle, fournir des informations et statistiques sur le cinéma européen, sur son évolution et sa situation dans notre société. Nous les avons rencontrés pour découvrir leur mission première. Alison Indo, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable communication et des relations presse et publique pour l'Observatoire européen de l'audiovisuel. Et donc vous êtes présent au marché du film du Festival de Cannes pendant cette quinzaine pour présenter à votre stand l'émission de cet observatoire. On va donc faire un focus sur cet observatoire qui a été créé en 1992, qui fait partie du Conseil de l'Europe. Et puis on parlera de ce que vous présentez donc à l'occasion de cette 77e édition du Festival de Cannes. Pour commencer, Alison Indo, quelles sont les missions premières de l'Observatoire européen de l'audiovisuel?
Eh ben, on aime bien parler d'un mot qui n'est pas utilisé trop souvent. C'est vraiment le centre de ce qu'on fait, c'est la transparence. Qu'est-ce que je veux dire par transparence? C'est que quand l'Observatoire a été créé en 1992, on savait que les industries du cinéma, de la télévision, que c'était important, que ça valait, que c'était vraiment un enjeu économique, mais on savait qu'on ne savait pas grand-chose. Voilà. Il manquait un centre d'information où les gens pouvaient se tourner et dire ben, « Moi, j'ai besoin de savoir ça et ça et ça sur le cinéma en Europe, sur la télévision, dernièrement, bien sûr, la vidéo à la demande, les streamers. » C'était justement cet endroit, ce bureau, cette organisation qui manquait pour créer la transparence, pour donner des chiffres et des analyses afin que les gens comprennent mieux. Donc, je peux répondre avec un seul mot, c'est la transparence, autrement dit, aider les gens à mieux comprendre ce qui se passe en Europe ou niveau de ces industries-là.
Donc c'est avant tout un travail et un devoir de sensibilisation et d'information?
Je dirais plutôt information. La sensibilisation, ce n'est pas vraiment notre but, notre rôle, c'est-à-dire la plupart des gens, ils savent ce que c'est que le cinéma, ils ont un téléviseur, ils ont les streamers. La sensibilisation, elle est faite toute seule. Nous, c'est vraiment information. Donc si je peux aller un peu plus loin dans ce discours-là, c'est qu'on fournit des statistiques, vraiment des informations statistiques sur le cinéma, la télévision et la VOD en Europe. Et de l'autre côté, des analyses juridiques, parce que vous savez, chaque pays en Europe a leur règlement, leur loi audiovisuelle. Et il y a aussi au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'Europe, des lois qui sont valables pour tous les pays. Donc ce sont les lois aussi qu'on analyse. Et on regarde comment les lois sont appliquées, qui sont transposées, comme on dit, dans les différents pays européens. Donc d'un côté, vous avez les stats, les statistiques, et de l'autre côté, vous avez les analyses juridiques.
Donc c'est un travail un petit peu comparatif de comparer les différentes juridictions entre les pays et où on en est en France aujourd'hui, notamment avec l'ARCOM, par rapport à nos voisins, par exemple.
Alors là, vous avez dit quelque chose qui est très important, c'est un de nos cœurs de métier, on en a plusieurs. On fait ce qu'on appelle des rapports de cartographie, hein, des rapports mapping, qui justement prennent un aspect de la loi européenne et qui comparent ce qu'on fait chaque pays européen. C'est exactement ça, c'est une approche comparative. Et sur le plan statistique, ben, on regarde, on compare quels sont les prix des tickets de cinéma pour tous les pays, combien de salles de cinéma y a-t-il dans chaque pays, combien de chaînes de télévision y a-t-il dans chaque pays. Donc il y a forcément un travail de comparaison où chaque pays peut se situer.
Et alors qui compose cet observatoire?
Alors, on a une équipe, je dirais, dernière fois que j'ai compté, c'est à peu près 27 personnes, des Européens. On a dans les 12 nationalités différentes. Il y a plusieurs profils différents. Hein. Ce sont des analystes qui sont spécialisés dans les médias. Ce sont des juristes qui sont spécialisés dans les médias. Il y a des gens comme moi qui sont plutôt qui ont une expérience professionnelle dans la com. On a notre responsable informatique. Et c'est vraiment un melting pot. Hein. C'est vraiment une organisation avec beaucoup de nationalités différentes. Et nous avons 3 langues officielles, l'anglais, le français et l'allemand.
Est-ce que la France a un poids particulier dans cet observatoire européen?
Bon, en principe, il faut dire que tous les pays sont égaux. Hein. Chaque pays qui est représenté au sein de l'observatoire a une voix au sein de nos organismes. Donc, il n'y a pas un pays qui prédomine au niveau des autres, non. Honnêtement, il faut dire que nous avons une quarantaine de pays membres et que la France a le même poids que tous les autres pays. Hein. Ça, c'est un pays, une vote. Donc, c'est vraiment une approche très égalitaire. Il faut quand même signaler que nous sommes à Strasbourg. On fait partie du Conseil de l'Europe. Donc, nous sommes en France. Et donc, voilà, notre siège se trouve en France. Mais tous les pays sont égaux.
Concrètement, il y a donc un lien avec le Conseil de l'Europe. Est-ce que plus globalement, il y a un lien avec la Commission européenne ?
Alors, ça, c'est une très bonne question. L'Observatoire fait partie du Conseil de l'Europe. On fait vraiment partie de notre maison mère. On est dans un beau bâtiment qui est juste en face du bâtiment du Conseil de l'Europe. Mais la Commission européenne, c'est-à-dire l'Union européenne, est considérée comme un membre. Et la Commission européenne représente l'Union européenne, donc ils peuvent voter comme les autres pays, et ils ont une vote. Donc la Commission européenne est très, comment dirais-je, très intéressée par les informations qu'on produit, ce qui est parfaitement normal, et on travaille étroitement avec eux.
Alors quand vous parlez des informations, notamment des statistiques que vous mettez en avant, de quelle manière vous collectez ces informations pour tous les pays européens ?
Alors, on fonctionne en ce qu'on appelle gestion de réseau, hein, en anglais le network management. Si je prends par exemple les statistiques sur le cinéma, nous avons deux analystes qui sont spécialisés dans le cinéma. Et ces analystes-là, ils ont leur réseau, ils ont leurs contacts dans chaque pays. Qui sont ces contacts ? Ben, tout simplement, c'est les instituts de cinéma dans chaque pays. Donc, en France, on est bien sûr en contact avec les CNC. Et dans les autres pays, en Angleterre, c'est le BFI, British Film Institute. Et dans chaque pays, nous avons notre contact, qui est classiquement l'Institut de cinéma national, qui nous fournit les statistiques régulièrement et fidèlement. Et c'est le travail de nos analystes de harmoniser, de trouver une approche harmonieuse, sachant que les stats ne sont pas toujours préparés de la même manière dans tous les pays. Donc c'est d'abord un travail d'harmonisation, de préparer les statistiques afin de pouvoir les mettre à disposition à qui veut. Hein. Et ça peut être des journalistes, ça peut être des professionnels de l'audiovisuel, ça peut être les gouvernements nationaux et bien sûr, comme j'ai dit, la Commission européenne.
Et alors de quelle manière est-ce que cet observatoire européen se positionne par rapport au streaming illégal ? Quelles sont vos positions là-dessus ?
Alors ça, c'est une très bonne question. On n'a pas à se positionner parce qu'on est une organisation parfaitement non politique et on s'entend comme fournisseur d'informations. Néanmoins, on se penche beaucoup sur la question du droit d'auteur, le copyright. C'est un grand domaine d'analyse pour nous. Donc, on peut s'occuper de cette question du point de vue analytique et juridique pour voir que dit la loi européenne dans un cas pareil et que disent les lois européennes dans chacun des pays. Donc c'est vraiment une approche analytique, mais nous n'avons pas à donner de conseils ni à recommander quoi que ce soit. C'est vraiment on observe, comme l'indique notre nom, nous sommes un observatoire.
Est-ce que cet observatoire regarde avec attention les élections européennes qui approchent ?
C'est pas du tout notre mission, mais bien sûr, comme Européens convaincus que nous sommes, nous regardons le processus sur le plan personnel avec intérêt. N'oublions pas que le Parlement européen est à Strasbourg. On est tous impliqués et on va voter, hein, mais intérêt professionnel, ce n'est pas du tout le travail de l'Observatoire.
Est-ce que la Commission, le Conseil de l'Europe et même le Parlement, si vous n'êtes pas lié, sa couleur politique peut-elle, au fur et à mesure des années, finir par avoir un impact différent sur l'Observatoire ?
Si j'avais une boule de cristal, je pourrais répondre à cette question, mais honnêtement, on n'en sait rien. On est juste ravis d'être là et de pouvoir faire ce beau métier et on verra ce que nous réserve l'avenir politique de l'Europe.
Alors, quel est l'enjeu pour vous de venir dans cette quinzaine au Festival de Cannes et de présenter vos missions au travers de ce stand ?
D'abord, c'est toujours un plaisir de venir. Hein. On a un partenariat avec le marché de films depuis plus de 25 ans. Et c'est vraiment un partenariat où il y a beaucoup de confiance et de beaucoup de bonnes vibrations, hein, comme on dit, les good vibrations. Il y a quatre piliers. D'abord, il y a le marché de films qui met à disposition de tous les participants un livre qui s'appelle Focus, les tendances du marché mondial du cinéma. Et on fait le focus, c'est nous qui le faisons, pour le marché du film. Et c'est un livre qui est publié par le marché du film, avec leur logo dessus, mais c'est nous qui éditons le contenu. Et on fait ça depuis, je pense que c'est la sixième édition maintenant, donc on est absolument ravis de le faire. C'est la première chose. Deuxièmement, l'Observatoire organise deux grandes conférences pendant le marché du film, vendredi après-midi. Et d'ailleurs, si vos auditeurs veulent suivre un live, il suffit de regarder la chaîne YouTube du marché du film et nos conférences sont streamées live en direct. Donc vous avez vendredi de cette semaine 17h. On fait une conférence sur le focus, sur les tendances du marché mondial du cinéma, avec un accent sur la Suisse. Et puis deuxièmement, samedi matin, si vos auditeurs veulent se lever là, 9h30, on commence bientôt. Ça va être streamé aussi sur la chaîne YouTube du marché du film. Là, on fait une grande conférence de 2 heures sur un sujet lié au cinéma. Alors, sachant que chaque année, c'est un sujet différent. Cette fois-ci, on s'est dit les salles de cinéma. Qu'en est-il des salles de cinéma? Tout le monde sort du Covid. On est dans une période après Covid, mais les effets se font encore ressentir, c'est clair. Et on se penche sur les salles de cinéma, leurs difficultés, leurs défis pour l'avenir. Comment faire pour s'en sortir? Quelles sont les stratégies? Comment est-ce qu'on peut faire pour les aider sur le plan européen? Donc ça, c'est vraiment la deuxième chose qu'on fait. On organise deux grandes conférences. Et puis, ma foi, on est là assis sur notre stand. Il y a les professionnels du monde entier qui viennent nous voir, qui viennent découvrir, comme vous-même, ce qu'on fait. Et ça, c'est, à titre personnel, c'est un plaisir énorme. J'ai eu quelqu'un ce matin de Mayotte, j'ai eu quelqu'un d'Équateur. C'est la seule fois dans l'année que j'ai la chance de parler avec des professionnels de l'audiovisuel du monde entier et qui viennent découvrir les informations qu'on fait et qui sont là pour eux. Ce sont des informations gratuites et tout le monde peut les utiliser. Donc on est là sur le stand pour expliquer aux gens ce qu'on fait.
Voilà, et je précise que ce jeudi, avec vos collègues de cet Observatoire européen, on détaillera avec plus de précision les chiffres de l'année 2023, les tendances du cinéma européen mondial et de ce qu'on peut observer à cette occasion. Malgré ça, est-ce que vous observez une différence? Quel a été l'impact de la crise sanitaire aujourd'hui sur le cinéma et sur les salles de cinéma dont vous parliez il y a quelques instants?
Comme je vous ai expliqué, on fait les statistiques et les chiffres qu'on regarde, que nous on regarde et les autres acteurs de l'audiovisuel, c'est simplement les chiffres pré-Covid, on en était où, et maintenant les chiffres post-Covid. Sur notre site internet, on trouve notre communiqué de presse de Cannes qu'on a sorti juste avant le marché, là, et on n'est pas encore au même niveau qu'avant le Covid. On n'est pas encore là. Et tout le monde réfléchit. Les grands débats, c'est est-ce qu'on doit accepter ce qu'on appelle une nouvelle normalité, un new normal, ou est-ce qu'on doit absolument essayer de remonter la pente et arriver au même niveau que là où on était dans le pré-Covid. C'est vraiment je simplifie un peu, mais on compare le après et l'avant. Et c'est sûr que quand les salles étaient obligées de fermer pendant la pandémie, que tout le monde a commencé à regarder beaucoup de choses en streaming, que ça laisse des effets. Donc c'est notamment le but de notre conférence samedi pour voir comment faire pour que les gens reviennent aux salles de cinéma.
Malgré ça, si vous êtes un observatoire, est-ce que l'observatoire peut être aussi en position de faire des propositions et d'apporter des solutions pour justement remédier? Est-ce qu'il y a aujourd'hui, comme la situation des cinémas est compliquée, il y a aussi des problèmes tarifaires qui sont de plus en plus élevés pour le public par exemple? Comment essayer de remédier petit à petit avant de retrouver des niveaux d'avant-crise, puisqu'on sait que le public demande le cinéma?
Absolument, mais si vous voulez, ça c'est bien comprendre notre rôle, on ne donne aucune recommandation. On ne donne pas de conseils, on est dans une neutralité totale qui est liée évidemment à notre position au sein du Conseil de l'Europe, donc neutralité totale. Mais on peut avoir la fierté de dire ici à Cannes que sur la plateforme de notre conférence, on va réunir des gens qui, eux, peuvent. Et c'est ce qu'on veut. On va faire parler nos panélistes et grâce à nos conférences, on va faire discuter les personnes qui peuvent commenter la situation. Si vous voulez, on propose une plateforme. C'est une plateforme qu'on propose afin que les gens puissent discuter, travailler ensemble, éventuellement commencer à élaborer des solutions, des discussions. Mais l'Observatoire même ne peut pas et ne doit pas le faire.
Est-ce que vous intervenez sur d'autres événements et temps forts à l'année pour parler de vos missions ?
Absolument. Nous avons, si je vous parle du calendrier un peu, on a le bonheur d'être présent à Cérimania, qui est vraiment une très bonne manifestation qui se passe à Lille au mois de mars. Et là, justement, on présente, comme à Cannes, hein, nos chiffres sur plutôt le monde du streaming, le monde de la VOD. Donc, pour nous, mars, c'est Cérimania à Lille, mais c'est Cannes. Et puis, on saute vers l'automne. En automne, on va à Bruxelles parce qu'on a beaucoup de contacts et beaucoup de réseaux clés qui ont leur siège à Bruxelles. Et on fait une conférence axée sur un sujet peut-être juridique, mais avec un aspect statistique, économique aussi. Donc ça, c'est les trois grands piliers de l'année où on travaille dessus parce que c'est important de quitter notre immeuble et d'aller vers notre public et de présenter notre travail en public. Et puis, n'oublions pas que tous nos experts et analystes, ils sont constamment sollicités eux-mêmes sur le plan professionnel d'aller assister à beaucoup de conférences et de parler et de présenter notre travail. Donc, on est tout le temps en train de voyager et de présenter notre travail. On est tellement sollicités qu'on a plutôt tendance à refuser les invitations, ce qui dénote, je pense, une bonne réputation de fiabilité pour nos informations. Mais on est très, très, très sollicités et on essaye d'être là où on peut.
Y a-t-il des informations pratiques à donner aux gens qui nous écoutent pour finir cet entretien si on souhaite se renseigner sur cet observatoire européen ?
Oui, absolument. C'est d'aller sur notre site internet. Alors, c'est pas hyper long, c'est obs.coe.int. Et si vous allez sur le site, vous allez arriver sur la page d'accueil. Surfez un peu, parce que la plupart de nos informations sont là pour vous. Tout est gratuit. Donc, vous pouvez vous pencher sur les rapports sur le cinéma. Si vous êtes passionné par le cinéma, vous pouvez aussi regarder beaucoup de rapports sur la VOD et le streaming en Europe. Nous touchons aussi à des questions de genre, égalité homme-femme. On a fait beaucoup d'études sur les femmes qui travaillent dans l'audiovisuel, donc tout y est. Et puis du côté juridique, comme je vous ai dit, hein, il y a des rapports comparatifs sur la législation en Europe, la législation audiovisuelle, des sujets comme les droits d'auteur. Donc c'est vraiment une mine d'informations. Je ne peux que vous encourager à surfer un peu sur notre site et vous allez peut-être trouver votre bonheur.
Alison Indo, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous et surtout, bon festival.
Vous êtes responsable communication et relations presse et public pour l'Observatoire européen de l'audiovisuel. Voilà, c'est la fin de ce premier numéro spécial de C'est d'Actu depuis Cannes et sa 77e édition. Merci de nous avoir écoutés. Restez branchés, on se retrouve sur la croisette dès ce jeudi 16 mai pour de nouvelles chroniques et temps d'interview. C'est un programme que vous pouvez évidemment réécouter en podcast sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.